vite, Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
Donner de sa personne, s'investir, s'impliquer, transpirer même pour la bonne cause, pour les bonnes personnes, ceux à qui on veut tendre la main et pourquoi pas le faire tous ensemble. C'est un peu ce que fait mon invité d'aujourd'hui via l'association qu'il représente. Il s'agit de l'association 7 d'honneur à Château-Gontier. Et avec moi aujourd'hui, c'est Corentin Chauveau. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. On parlera dans quelques instants du trail urbain que vous organisez le 1er avril pour récolter des fonds, pour accompagner et soutenir le parcours d'une enfant et de sa famille. Bienvenue aussi à vous, amis auditeurices. Bienvenue dans l'agité du local. Aujourd'hui, nous irons aussi du côté de Sablé-sur-Sarthe pour rencontrer la compagnie de danse de l'Éventail qui, après 40 ans, tire sa révérence. Lise Leteul a été à la rencontre de Marie-Geneviève Massé, danseuse, chorégraphe et directrice de la compagnie, qui nous parle d'un concours que la compagnie propose. Cette émission se termine toujours sur une bonne note, c'est celle de nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Jean-Michel Guinaudot et ses meilleurs conseils consommation avec la chronique de l'UFC Que Choisir. Mais je vous le disais, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Corentin Chauveau, président de l'association 7 d'honneur à Château-Gontier, une association qui vient de fêter ses 5 ans. L'objectif de l'association est de récolter des fonds pour accompagner des enfants malades ou porteurs de handicap. Corentin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la création de cette association ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, on est de 7 jeunes de Château-Gontier, fans d'athlétisme, puisqu'on s'est tous rencontrés au club d'athlétisme à Château-Gontier. Et on avait pour objectif de participer à une course dans le Nord Mayenne, mais dans une version un peu solidaire, en se disant qu'on allait pouvoir récolter des fonds sur cette course qui durait 24 heures et qu'on allait pouvoir peut-être récolter des fonds pour financer des rêves d'enfants malades. Et on voulait le faire de manière locale, ça nous tenait à cœur, mais on n'a pas trouvé d'association sur le territoire de Château-Gontier pour pouvoir faire ce type de financement. Et donc en fait l'idée a germé de pouvoir peut-être créer notre propre association et de pouvoir à court terme et peut-être à petite échelle voir ce qu'on était capable de faire. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est pris au jeu, on a accompagné une première famille avec un premier enfant qui voulait partir en safari, qui était atteint d'une tumeur au cerveau. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a rencontré d'autres familles, on a été sollicité par d'autres familles, on a noué d'autres partenariats. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on récolte des fonds et qu'on participe et organise des manifestations sportives pour pouvoir financer les rêves d'enfants malades.
Et donc là, cette année, c'est la 3e édition du Trail Urbain que vous organisez à Château-Gontier, donc qui aura lieu le 1er avril. Pour participer, il faut s'inscrire avant le 30 mars. Alors parlez-moi un peu de ce Trail Urbain, comment ça se passe? C'est au plein cœur de Château-Gontier, c'est bien ça?
Alors tout à fait, c'est toujours le lundi de Pâques, donc la date change en fonction des années. Cette année, c'est le 1er avril 2024, donc c'est le lundi matin, c'est un jour férié. Et donc l'objectif en fait c'est ça, c'est de pouvoir s'amuser, se faire plaisir dans les rues de Château-Gontier avec deux courses, donc un 5 km et un 11 km, qui sont tout à fait accessibles du coup, puis même pour les coureurs novices, j'ai envie de dire, sur un 5 km, qui vient vraiment découvrir le patrimoine de Château-Gontier parce qu'on a la chance d'avoir une belle ville pour le coup. Alors on essaie de diversifier les parcours d'année en année. Première année on est passé par le refuge de l'Arche notamment, voilà, on essaie de passer par le cinéma, le bistrot. Bon voilà, cette année on essaiera de se consacrer aussi un petit peu sur le quartier du Faubourg, puisqu'on ne l'a pas encore exploité sur les deux premières éditions, pardon. Donc voilà, c'est un peu là l'objectif de cette année, d'aller découvrir des nouveaux quartiers et de vraiment de s'amuser dans les rues de Château-Gontier, puisqu'on a encore une fois un patrimoine assez exceptionnel.
Oui. Et donc vous le disiez, donc il y a une course de 5 km, une de 11, et il y a même une course pour les plus jeunes, pour les enfants.
Tout à fait. L'idée, c'est voilà, vraiment dans cette idée de course un peu familiale et amicale, de pouvoir venir en famille, de pouvoir venir courir voilà, en tant que père de famille ou mère de famille, mais aussi de pouvoir y inscrire son enfant sur une course en fin de matinée. Alors une course adaptée en fonction de l'âge de l'enfant aussi. Voilà, donc ça va de quelques centaines de mètres pour les plus jeunes à quelques petits kilomètres pour les plus âgés.
Et alors on parle d'un trail solidaire, combien est-ce qu'il y avait de participants sur les précédentes éditions ?
Alors on a une première édition où on a à peu près eu environ 300 participants et on a une deuxième édition où on a quasiment doublé avec les jeunes puisqu'on avait 500 inscrits sur le 5 et 11 km et donc on avait quasiment une centaine d'enfants l'année dernière.
Vous recherchez des bénévoles également pour cet événement qui arrive donc le 1er avril, c'est pour différents postes ?
Oui. Ouais, alors en fait, c'est le mal un peu de toutes les associations aujourd'hui, hein, la recherche de bénévoles toujours active. On recherche des bénévoles mineurs comme majeurs. Alors il y a de l'aiguillage sur le parcours où il faut malheureusement aujourd'hui des signaleurs pour pouvoir orienter les coureurs et aussi faire respecter la circulation, même s'il n'y a rien de sorcier. Et puis des bénévoles sur le parc, puisque voilà, il y a une buvette à disposition, on a une boutique à l'effigie de l'association le jour J, il y a la remise de dossards et puis il y a toutes les récompenses à distribuer aussi à l'arrivée. Donc vraiment, tout type de profil est accepté et il y aura de la place pour tout le monde. Et plus il y aura de bénévoles et plus ce sera sympa aussi finalement d'être là le jour J.
Oui, parce que c'est une bonne ambiance, c'est convivial, c'est vraiment un moment de partage où tout le monde se retrouve pour la bonne cause.
Ça a toujours été la dynamique de l'association, en tout cas ça a toujours été la volonté de... Alors certes il y a la performance pour ceux qui le souhaitent et qui veulent venir jouer la gagne sur la course, mais il y a aussi vraiment ce côté bon enfant, voilà, avec un peu de musique, avec la mise à disposition comme on disait de la buvette, on n'est pas pressé, enfin vraiment il y a vraiment cette envie que les gens puissent partager un bon lundi matin, le lendemain de Pâques pour le coup.
Et donc on l'a dit tout à l'heure, cet événement est organisé dans le but de récolter des fonds. Cette année c'est pour accompagner Lilouen, une enfant de 7 ans qui souffre d'un retard global du développement moteur. Comment ça se passe la rencontre avec cette famille ?
Alors l'association justement a toujours voulu mettre en avant que chaque euro récolté puisse être redistribué dans cette optique de financer et de réaliser les rêves d'enfants malades. Donc c'était de nombreux accompagnements, hein. Depuis 5 ans on a remis un peu plus de 10 000 euros. Et donc en fait on utilise beaucoup la presse locale pour essayer d'aller à la rencontre des familles qui, par le biais d'un article de presse, va venir parler du handicap de son enfant. Donc ça a été le cas là cette année avec Lilouen qu'on a rencontré à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaye toujours de formaliser une première rencontre. Depuis 2023-2024, on fait maintenant des partenariats d'un an où on va du 1er septembre au 30 juin dans l'optique que pendant 10 mois, on ait vraiment le temps d'aller à la rencontre des familles et d'analyser vraiment les besoins des enfants. Aujourd'hui, Lilouen, elle a un budget à l'année pour ses thérapies d'environ 10 à 15 000 euros. Donc nous, on essaye à notre petite échelle de pouvoir vraiment venir apporter ce soutien-là à la famille. On est sur une aide financière parce qu'il y a des thérapies qui existent aujourd'hui à l'étranger. Lilouen, c'est une jeune fille qui est en grande difficulté dans la marche, qui a besoin d'accompagnement, qui ne parle pas non plus. Il existe des thérapies intensives dans les pays étrangers tels que l'Espagne, tels que la Pologne, mais ça a un coût financier au niveau des thérapies, mais aussi au niveau des déplacements. Et puis ça nous permet vraiment aussi sur un plan humain d'apporter du soutien à des familles qui se retrouvent parfois de plus en plus isolées à travers le handicap de leur enfant. Et on organise aussi justement des journées partenaires, notamment on essaie de réunir les familles qu'on a accompagnées depuis la création de l'association pour permettre aussi aux familles d'échanger sur leur parcours et nous de pouvoir regrouper toutes ces familles qu'on a accompagnées de manière solitaire dans un premier temps. Mais on trouvait vraiment important de pouvoir les réunir aussi entre elles.
Oui, donc c'est l'importance de tisser du lien, vous, avec les familles, mais aussi les familles entre elles, parce qu'effectivement, donc, il y a un quotidien complexe avec tout, pour eux, en tout cas, pour tout ce qu'implique des fois la maladie ou le handicap. Et donc le soutien financier est important, mais c'est aussi quelque chose qui humainement touche ces familles, de voir une solidarité comme ça qui se met en place et des événements aussi importants qui se mettent en place sur leur territoire pour soutenir leurs enfants.
Complètement. En fait, c'est ce que nous ramènent les familles de plus en plus. C'est que quand on a un enfant porteur de handicap, on se retrouve dans l'obligation finalement de toujours demander de l'aide, que ce soit auprès de la maison départementale de l'autonomie, pour avoir une place dans les institutions, pour pouvoir savoir si on peut avoir une place dans telle ou telle thérapie également. Et en fait, on est souvent la première main tendue. C'est pour certains la première fois qu'une autre association les appelle en leur disant « Vous n'avez rien à faire, on veut juste vous aider, apprendre à vous connaître ». Et pouvoir vous soutenir comme on peut. Et donc ça, pour eux, c'est la première porte ouverte et la première main tendue, souvent. Et donc c'est vraiment chouette, parce que c'est des familles qui sont souvent très mobilisées autour de leur enfant. Et quand on leur amène un soutien extérieur, c'est souvent très bénéfique. Et on le ressent, nous aussi, aujourd'hui, quand on nous propose de l'aide pour nous, dans notre association. On est toujours très content parce que ça veut dire qu'on est reconnu à travers ce qu'on fait et ça, c'est vraiment chouette.
Justement, on parle du trail urbain qui aura lieu le 1er avril, mais il y a différents temps dans l'année en fait que vous organisez avec l'association de 7 donneurs.
Oui, tout à fait. On essaye. Alors, l'objectif, en effet, de récolter des fonds, mais c'est aussi de communiquer. Alors, c'est de communiquer sur Lilouen, parce que Lilouen, elle va continuer à grandir après notre accompagnement. Et puis, c'est de continuer à communiquer sur l'association pour les autres enfants que nous allons accompagner prochainement. Donc du coup, oui, en effet, on organise des tournois sportifs. On a pas mal organisé de tournois de badminton, notamment en lien avec une salle de sport à Château-Gontier, de tournois de soccer également. Et puis on est présent sur les petites manifestations qui peuvent avoir lieu sur Château-Gontier où on peut faire de la communication. Donc je pense notamment au marché de Noël. Là, voilà, va y avoir le relais de la flamme olympique. Ça va être quand même quelque chose d'assez important, les Jeux olympiques aujourd'hui en 2024. Donc on va essayer aussi de voir ce que nous, on peut créer et faire sur Château-Gontier par rapport à ça, dans l'optique toujours vraiment de faire de la communication. Et donc cette journée partenaire dont je parlais, où là, vraiment, l'objectif est de pouvoir rencontrer et de réunir tout le monde.
Et donc, au tout début de l'association, vous étiez 7 des jeunes. C'est le sport qui vous a fait vous rencontrer au tout départ. Comment ça s'est passé ?
Complètement. En fait, c'est vraiment 7 personnes d'un club d'athlétisme qui voulaient participer à une compétition sur l'été. Donc, c'était une compétition de 24 heures. Voilà, moi, je l'avais fait avec une première personne en duo la première année, vraiment pour le plaisir. Et la deuxième année, il y a 2 autres personnes qui se sont dit « Tiens, on ferait bien aussi cette course-là avec vous, les gars. » Et donc, du coup, on le ferait pour la bonne cause. Et donc, de fil en aiguille, l'association s'est créée. Et puis, bah, en fait, on a, voilà, avec nos amis, nos connaissances autour, on s'est réunis à 7 et on s'est dit « On y va, on crée, on voit où ça nous mène. » Et donc, voilà, ça nous mène ici 5 ans plus tard.
Oui. Et donc, Corentin, humainement ou dans votre quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement, à vous ?
Alors, c'est de la richesse. Moi, je suis éducateur spécialisé déjà de formation. Donc, je suis baigné dans le social déjà de base. Et alors, c'est vraiment des rencontres. Moi, voilà, humainement parlant, je vis pour ça aussi. Je trouve qu'il n'y a pas plus enrichissant que la rencontre humaine quand même aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ça, apporter des connaissances et puis... Et puis vraiment d'avoir de l'échange, du partage, des moments de vie en fait, tout simplement.
Merci Corentin pour s'inscrire au trail. Comment ça se passe ? Où est-ce qu'on vous contacte ?
Alors du coup, il y a toutes les informations qui se retrouvent sur notre site internet, donc au nom du 7donneur.fr hein, pour le coup. Toutes les infos sur nos réseaux sociaux aussi, donc une page Instagram et une page Facebook. Et pour ceux qui voudraient s'inscrire là, suite à l'émission, du coup, c'est directement sur le site Time Pulse. Voilà, on retrouve directement les informations sur le trail urbain, qui est bien le 1er avril, donc il y a juste besoin de se rendre sur le mois d'avril et on trouve la course, on est référencé assez facilement.
Et si on veut participer à l'événement, mais en tant que bénévole, est-ce qu'il y a un contact particulier ?
Eh bien, même chose du coup, alors faut pas hésiter à nous contacter soit via notre page Facebook, soit via notre site internet, on trouve toutes les adresses mail de contact. Et là derrière, on nous envoie un mail en nous disant qu'on veut être bénévole. Et on a une équipe de bénévoles qui saura prendre en charge le mail et recontacter les personnes dans les plus brefs délais.
Merci Corentin, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc je le rappelle, le trail urbain aura lieu donc le 1er avril et donc c'est organisé par l'association 7 donneurs. Merci d'avoir été avec moi et d'avoir répondu à toutes mes questions. Amis auditeurs, je vous propose maintenant une petite pause musicale, mais une petite pause énergique parce qu'on est mercredi, donc il faut quand même garder un petit peu la pêche. Et donc je vous propose d'écouter Madame La Meute.
I am feeling like I'm fearless, I am cold.
commence l'actu en bref avec un rendez-vous pour les tout-petits et leurs parents. La bibliothèque Albert Legendre à Laval vous propose le spectacle Papier, créé par la compagnie Théâtre avec un nuage de lait. Il s'adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans, le dimanche 3 mars à 15h. Papier, c'est l'histoire d'une page blanche qui rêve de belles histoires, comme dans les contes pour enfants. Ce spectacle, c'est un conte de papier pour pop-up, origami, ombre chinoise et plein d'autres petits plaisirs qui émerveilleront les tout-petits qui n'ont pas encore les mots. On continue en mouvement, en transpirant un peu même, on peut le dire, puisque la Mayenne organise la 63e édition du Cross National des Pompiers 2024, le 23 mars à Laval. On peut compter 4000 participants de 16 à 65 ans venus de 101 départements qui se retrouveront à l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. Les préparatifs de cet événement ont commencé il y a plus d'un an et mobilisent 450 bénévoles. Pour cette nouvelle édition qui est placée sous le thème des Jeux Olympiques, une vingtaine de stands seront déployés. Les organisateurs précisent que la jauge de l'hippodrome est effectivement importante, mais les places seront malgré tout limitées pour le grand public. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 10h15 et le départ des 10 courses entre 11h45 et 17h. On continue à l'Université catholique de l'Ouest. 48 heures pour créer un jeu vidéo, ça a commencé hier pour les étudiants de Laval qui participent en ce moment à l'Emotional Game Jam. Ça concerne les étudiants de l'école Laval 3DI, la filière spécialisée dans la création de jeux vidéo. L'Emotional Game Jam en est à sa 8e édition. Elle s'organise avec des groupes d'étudiants d'environ 5 personnes et a pour premier thème imposé cette année « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Le jury est composé cette année de 2 anciens étudiants, Tanguy Belloin et Maxime Baudreau, directeur artistique dans un studio de jeux vidéo et également développeur. On termine ces actualités avec la galerie d'art municipale à Cran, la Maison Bleue, qui accueillera du 8 au 20 mars les autoportraits dans le rétroviseur de Jean-Luc Giraud, aussi réalisateur de courts-métrages, dessinateur et peintre. Dans cette exposition, Jean-Luc Giraud a exploré plusieurs techniques et supports de l'image, des plus traditionnels aux plus modernes, en passant par le cinéma d'animation, la photo peinte ou la prise de vue réelle. Il décrit son univers comme une infinie variation autour d'un visage, le sien, à travers le temps et les humeurs qu'il traverse. Cette exposition sera donc à découvrir à la Maison Bleue de Cran. Aujourd'hui, Fatia, tu auras la tête dans les nuages. Je ne sais pas si tu es quelqu'un de particulièrement rêveuse, mais à moins que tu aimes chanter sous la pluie et y faire des claquettes en te rêvant actrice d'un célèbre film, il faudra se couvrir un peu. Parce qu'à Goron, c'est 12 degrés qui est attendu aujourd'hui, 13 à Laval, Château-Gontier et Cran, et partout, très nuageux, avant l'arrivée de la pluie en soirée. Demain, le temps se prêtera à sauter dans les flaques pour faire râler celui ou celle qui remplit la machine à laver, puisqu'on s'attend à des pluies éparses le matin sur tout le département et de rares averses l'après-midi. La météo ne nous étonne pas beaucoup en ce moment, entre 10 degrés et 12 degrés toute la journée de demain, avec un vent qui pourra monter à 25 km/h dans l'après-midi. Comme certains disent, les bonnes choses ne tombent pas du ciel. Eh bien oui, il faut les chercher ailleurs en ce moment, il me semble. Un concours de maximes, dictons et proverbes organisé à Sablé-sur-Sarthe avec la compagnie de danse L'Éventail. On en profite pour regarder un peu en arrière et toute l'histoire de cette compagnie avec Marie-Geneviève Massé. On a été à leur rencontre et c'est un reportage signé Lise Le Teul. Écoutez.
À l'occasion de la 40e et dernière année de la compagnie de danse L'Éventail, nous rencontrons Marie-Geneviève Massé, danseuse, chorégraphe et directrice de la compagnie.
C'est moi qui ai fondé la compagnie, que j'ai fondée en 1984, qui est implantée à Sablé-sur-Sarthe depuis 2000 à peu près. J'étais avec mon compagnon qui s'appelait Bernard Delattre. Tous les deux, on a créé l'association L'Éventail. Pendant les 8 premières années, j'ai répondu à des commandes, des metteurs en scène, des chefs d'orchestre. Puis en 93, là, j'ai commencé à faire mon propre projet, à faire mes propres productions. Alors c'est à géométrie variable. Selon les projets, il y a une vingtaine de danseurs et le noyau, c'est une douzaine, quoi.
Être chorégraphe en danse baroque, c'est lier histoire et créativité.
On se ressource particulièrement par rapport aux références historiques du XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a tout cet apprentissage de ces références historiques. Moi, je fais tout un travail en studio, ça passe par le corps, toute cette matière. Moi, après, je l'utilise à ma manière au XXIe siècle avec toutes les autres références qu'on peut avoir. voir. Il y a toutes les rencontres que je peux faire avec des metteurs en scène, avec des chefs d'orchestre. Tout ça, ça vous nourrit. Les rencontres avec d'autres interprètes, avec les costumiers, avec les décorateurs, avec les éclairagistes. Et puis la vie. Il y a des fois, vous avez des idées, ça vous vient à n'importe quel moment. Et tout d'un coup, pof, il y a un truc, une fulgurance qui arrive. Après, c'est des heures, des mois, des années. Des fois, il y a des projets. J'ai mis 3-4 ans. Là, moi, j'arrête justement parce que plus ça va, plus j'ai peur de la page blanche.
Selon Marie-Geneviève Massé, notre société contemporaine sert sa création et lui permet de faire de la danse baroque un art toujours vivant.
Pour moi, tous les artistes sont des gens qui métamorphosent les choses sans cesse. Vous voyez le lien que j'essaye de tisser entre le passé, notre culture, notre patrimoine culturel, et puis la créativité, surtout pas rester dans le baroque traditionnel de Louis XIV. Je suis quelqu'un du XXe siècle et du XXIe siècle et je ne cherche absolument pas à faire du travail de reconstitution. Jamais, jamais, jamais. C'est une partie de mon travail, mais quand je suis sur scène, je crée des spectacles qui n'auraient pas pu se faire à l'époque de Louis XIV.
Alors que la danse baroque est systématiquement rattachée à l'époque du Roi Soleil, elle peut surprendre le public et se montrer intemporelle.
On a abandonné l'adjectif baroque. Beaucoup de gens ont des a priori par rapport à ça. Déjà, le mot baroque, c'est quelque chose d'actuel, parce qu'on a besoin de mettre des étiquettes. C'est nous, au XXe siècle, qui lui avons donné un nom. Le baroque, à l'époque, ça s'appelait la belle danse. Ça, ça a disparu. C'est un témoignage d'une époque qui est liée à un moment de notre histoire. Mais la matière que ça représente, ça reste quelque chose de vivant parce que les chorégraphes actuels se saisissent de cette matière et en font ce qu'ils veulent. Il y a une appropriation des artistes avec leur propre histoire et puis nos références changent énormément. Moi, j'aime bien être à la sortie, entendre les commentaires des gens. Ce dont je m'aperçois, c'est à quel point les gens sont surpris d'une part de ne pas s'être ennuyés et d'avoir été tout le temps sollicités, d'avoir vu quelque chose d'aussi vivant. Voilà, chacun a une idée, ils se disent « Ah bah oui, tiens, on va se retrouver à Versailles. Ah bah finalement, c'est pas du tout ça. » Tant qu'il y aura des artistes, moi, je pense pas que ça puisse disparaître.
La compagnie de danse L'Éventail se produira une dernière fois sur le territoire sabolien lors du Festiventail, un festival aux nombreuses actions culturelles qui aura lieu du 25 mai au 8 juin prochain.
Plein d'actions différentes. Il y a un concours de maximes, de dictons, de proverbes. Il y a un bal costumé, des ateliers d'art plastique, une conférence humoristique sur la place des femmes dans la danse, des projections de spectacles qu'on a fait. Et le 8 juin, il y aura la dernière création et le spectacle va s'appeler La Maravilla ou le ballet de la vente aux enchères. Pour terminer la compagnie, c'est qu'on a aussi un fonds de costumes et de décors qui sont considérables. Donc il y en a beaucoup que j'ai donné, il y en a que je voudrais donner au collectif qui va continuer. Et puis on va en vendre aussi. Évidemment, ça ne sera pas une vraie vente aux enchères, mais avant tout qui doit être drôle, fantaisiste, plein d'humour, de poésie et mettre le public en joie, les emmener avec nous.
Vous avez jusqu'au 14 avril pour participer au concours de Maxime en envoyant votre proverbe à la compagnie. Pour les contacter, rendez-vous sur leur site internet compagnie-éventail.com.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Nous sommes mercredi et pour terminer cette émission, on continue avec le meilleur des conseils consommateurs et c'est Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne que l'on écoute juste après Nos caféines de Marika Ackman.
Occupy your mind, don't stay home. Talk to all your friends, but don't look at your phone. Scream into a bed, try to turn your brain off. Make a herbal tea, don't throw up. Remember how to breathe, maybe try and fuck. Stay away from love. Take your clothes off. Cause you got me good. And I feel so stupid. And now we're doing it all the time. We only had the mind. We only had the. Take a day off work. Call your
stupid. Now we're doing it all the time. We only had the night. We only had the.
Vous êtes. Écoutez l'agité du local et on arrive au moment de notre chronique consommateur avec Jean-Michel Guinaudot et l'UFC Que choisir de la Mayenne.
La chronique du UFC Que choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, votre association a fait de la consommation responsable le fil d'Ariane de ses actions pour les prochaines années. Au quotidien, c'est quoi ?
Mais vous savez que des ONG calculent chaque année ce qu'ils appellent le jour du dépassement. C'est le jour de l'année après lequel on utilise plus de ressources que notre planète n'en produit en un an. Et en 2023, c'était le 2 août. On a donc vécu à crédit pendant 5 mois. Consommer responsable, c'est donc ne pas consommer plus que ce qui est produit et surtout pas plus que ce dont nous avons vraiment besoin.
Par exemple ?
Les gestes les plus simples concernent le matériel en panne, en pratiquant la réparation ou le recyclage. C'est dès l'achat qu'il faut se préoccuper de la possibilité de réparer le matériel. Le problème, c'est que la réparabilité et le profit du fabricant sont incompatibles, ce dernier souhaitant vendre le plus possible de matériel neuf. Par exemple, vous achetez un lampadaire possédant 5 lampes LED. C'est tout le lampadaire qu'il faudra changer si ces lampes ne peuvent être remplacées individuellement. Le bon choix devra donc se porter sur le lampadaire dont on pourra remplacer chaque lampe. Pour faciliter ce choix, le législateur s'appuie sur 3 leviers. L'indice de réparabilité, sur le modèle de l'indice de la consommation énergétique. L'obligation d'indiquer la date limite de disponibilité des pièces de rechange. Et une incitation financière en prenant en charge une partie des coûts de réparation. Le choix peut parfois être difficile, car les produits non réparables sont souvent beaucoup moins chers que les produits réparables. Enfin, l'obligation de réparer ou de remplacer un produit défectueux dans le cadre de la garantie légale de conformité pendant 2 ans après l'achat est une incitation à produire plus solide et à limiter ce que l'on appelle l'obsolescence programmée.
L'incitation à la réparation, c'est nouveau ?
Eh oui, ça s'appelle le bonus réparation. Il a été créé par la loi du 10 février 2020 et mis en application à partir de décembre 2022. Les réparateurs sollicitent l'octroi du label CaliRépare. Une facture de réparation sera donc diminuée d'un montant pouvant aller jusqu'à 60 euros pour plus d'une cinquantaine de produits, dont les textiles et les chaussures. Comme toujours, il y a des restrictions. Le produit doit être hors garantie ou assurance, avoir été correctement utilisé et entretenu et correctement identifié. Selon les produits, des bonus sont accordés. Le réparateur se fera payer le bonus par l'État. Tous les détails, pour les détails, rien ne vaut une visite sur Internet en mettant « bonus réparation » comme mot-clé.
Mais le coût de la réparation peut être plus élevé que celui d'un produit neuf ou la réparation impossible.
Alors, il y a la recyclerie ou la déchetterie. En recyclerie, le produit que vous avez donné pourra être réparé à moindre coût, souvent dans des entreprises de réinsertion, et pourra retrouver une seconde vie. S'il n'est pas réparable, il suivra le même chemin qu'en déchetterie. Il pourra être correctement démonté, les différents matériaux, le composant, comme les plastiques, les métaux, seront réutilisés pour fabriquer des produits neufs, plutôt que de puiser dans les ressources naturelles.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour le rappel de ces informations qui nous incitent à la consommation responsable. Si l'on souhaite une aide pour un litige avec une banque ou un autre professionnel, pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier pour vous aider à résoudre votre litige avec un professionnel ou vous proposer vos services pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation. En effet, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. L'Agité s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Corentin Chauveau d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à Jean-Michel Guinaudeau et à Lise Le Teul pour le reportage d'aujourd'hui. Votre soirée commence à 19h avec Novorama qui met à l'honneur, comme chaque semaine, un artiste ou un groupe émergent avec en plus une sélection de nouveaux albums indie rock, pop et électro. L'émission The Voice of Cassandre prend l'antenne à 20h pour partager avec vous des playlists et des mixtapes de différents artistes. Et on termine cette soirée avec d'éclectique jazz à partir de 21h. Et donc, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Je serai en compagnie de Oriane Marcilli, de son nom de scène Lady Like Lily, qui a créé le spectacle Les Graines Oubliées, que vous découvrirez lors du festival Monte dans le bus, le 6 mars au 40 à Laval. D'ici là, prenez soin de vous, engagez-vous, je me répète un peu, mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.